Bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de vous être rendus disponibles. Donc nous sommes en conseil municipal à huis clos, en conséquence de quoi nous sommes obligés d'enregistrer et de diffuser simultanément. C'est pour ça qu'il y a un ordinateur qui est installé de façon statique là-bas dans le coin, et il y a un lien actuellement sur le site de la mairie pour que les habitants, les personnes qui le souhaitent, puissent suivre nos débats donc en direct sur YouTube. J'ai les excuses de Michel Baudry qui donne pouvoir à Gilbert Zavrosa, Paul Wolf qui donne pouvoir à Jean-François Sahuc et Myriam Chériani qui donne pouvoir à Antoine Di Paolo. Si vous en êtes d'accord, je vais vous demander de vous lever. Et je voudrais rendre hommage à trois personnes qui nous ont quittés récemment. La première personne, c'est Georges Fonbonne, qui est décédé au mois de décembre, qui pendant longtemps avait été un élu investi sur la commune, en particulier dans le domaine de l'artisanat et du commerce. Et c'était un des acteurs importants du marché de Noël. Il avait arrêté donc ses missions d'élu l'an dernier. Il avait quitté la commune pour s'installer à Saint-Genès-Malifaux, mais il avait gardé bien sûr une affection réelle pour notre territoire. Et nous avons une pensée pour lui. Ensuite, je voudrais évoquer Jackie Plessis. Jackie était investi à la FNACA dès 2006 et il a, au travers de nombreuses actions, promu les liens intergénérationnels. C'est pourquoi il s'est pleinement investi auprès des jeunes et des moins jeunes dans le projet Mémoire et Paix, qui s'est matérialisé par un spectacle mémorable le 11 novembre 2018 dans le cadre du centenaire de l'armistice de la Première Guerre mondiale et la réalisation du monument bâti sur le parvis de la mairie. On pourrait également dire que, désormais, il y a également une bande dessinée qui retrace ce spectacle. Il a été récompensé de son action et de ses nombreuses années de bénévolat en recevant la médaille de l'Assemblée nationale en mai 2019. En juillet 2019, pour les 10 ans du Conseil des jeunes, un arbre a été planté au Club Bayard pour honorer son engagement et celui de son épouse. Son message est simple, je parle au présent. Se souvenir, transmettre aux plus jeunes notre mémoire collective et ne pas oublier là où mènent l'intolérance et les extrémismes qui ont marqué le XXe siècle et nos années récentes. Enfin, bien évidemment, André. Donc André était né le 23 février 1934 à Lorette. Je vais vous passer tout son historique professionnel. Sachez simplement que sa carrière professionnelle dans l'éducation et dans l'enseignement fut récompensée par l'attribution des grades de chevalier puis d'officier des palmes académiques. Et en 2011, elle reçut les insignes de chevalier de l'Ordre national du mérite. Retraitée depuis 1989, elle entra alors en politique en qualité de conseillère municipale déléguée à la culture et à l'éducation, puis adjointe au maire en charge de la culture sous la mandature de Claude Chaboissier de 1995 à 2001 et depuis conseillère municipale. Rapidement, je vais citer les structures dans lesquelles elle s'est investie parce que ça me semble important. Le Centre de recherche et d'information sur la littérature de jeunesse dès 1980 avec la présidence en 1996. L'association La Joie de Vivre depuis 2004 en qualité de présidente. Le comité féminin pour la prévention et le dépistage des cancers du département de la Loire depuis sa création en 2005 et vice-présidente de la Fédération nationale de ces comités depuis 2009. L'organisation chaque année du mois Octobre Rose en faveur de la lutte contre le cancer. L'association des femmes élues de la Loire en 1995. La campagne des Mariannes de la parité auprès des collectivités en 2011 et la présidence du Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Ce qu'il faut dire à André, c'est lui dire merci. Merci pour ses convictions, son engagement, sa capacité à passer du concept, du théorique, à l'action et à l'organisation. Enfin, je voudrais évoquer l'un des combats dans lesquels elle s'était le plus investie, celui du droit des femmes. Le droit de la femme en tant que personne, en tant que mère, en tant que malade, en tant que citoyenne. Aujourd'hui, de nombreuses associations expriment leur attachement, leur affection, parce que ce combat, elle l'a mené à chaque instant, en mobilisant, en associant et en convaincant. Je vais me permettre de vous lire quelques témoignages qui nous sont arrivés. Et je vais commencer par celui de Madame Reine Lépinet, coprésidente du réseau Elle aussi, membre du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes, présidente de la Fédération régionale des CIDFF Auvergne-Rhône-Alpes. André Chaise nous a quittés pour un ailleurs. La maladie aura eu raison de son courage et de son énergie. Femme engagée pour une société plus juste, elle laisse un grand vide derrière elle. Son implication dans de nombreuses associations était totale. Rien ne pouvait l'arrêter quand elle s'était fixé un objectif. Dans les moments les plus difficiles, elle trouvait toujours des ressources pour les surmonter et son enthousiasme entraînait l'adhésion du plus grand nombre dans les projets. Sa grande capacité de travail et détermination forçait l'admiration de toutes et de tous. Nous retiendrons d'elle son engagement sans limite, son audace, sa persévérance dans les situations critiques rencontrées par les associations qu'elle présidait et surtout son extrême loyauté en toutes circonstances. Impliquée dans sa commune de Saint-Priant-Jarret, où elle a eu la gentillesse de nous inviter pour la première assemblée générale de notre Fédération régionale des centres d'information des droits des femmes Auvergne-Rhône-Alpes en septembre dernier, elle était heureuse de nous dire combien la culture était essentielle à l'épanouissement de la personne et combien son engagement municipal la comblait. André était un exemple pour beaucoup de bénévoles. Présidente de l'Association des femmes élues de la Loire, elle avait travaillé depuis de nombreuses années avec le réseau Elle aussi, que je co-préside, c'est Madame Reine Lépiné qui parle, pour défendre la représentation des femmes dans toutes les instances élues. Elle avait organisé dans le cadre du Congrès des maires de la Loire en mars 2017 un atelier sur le thème de la sous-représentation des femmes dans les intercommunalités et permis à Elle aussi de présenter son étude sur le sujet après les recompositions communautaires dictées par la loi NOTRe. Sa lutte en faveur des droits des femmes l'a conduite sur tous les fronts des inégalités entre les femmes et les hommes. À 86 ans, elle nourrissait encore de nombreux projets et ne pouvait imaginer la vie sans engagement social et sociétal. André était une belle personne, solaire, elle donnait envie d'être meilleure en toutes circonstances. À Monsieur le maire Christian Servant et à tous les élus du conseil municipal de Saint-Priest, aux élus des assemblées locales, aux élus des chambres parlementaires qui ont fait un bout de chemin à ses côtés, à Monsieur le député Régionico, nous présentons nos bien sincères condoléances. Encore deux témoignages, si vous permettez. C'est Marie-Christine Thivant, la maire de Sorbier, qui nous dit « Bonjour, ce petit mot pour exprimer mes condoléances pour le décès d'André Chaise, à transmettre à ses proches et à toute votre équipe de conseillers municipaux. J'ai fait connaissance avec André au début de sa mandature vers 89-90, puisqu'à l'époque j'habitais Saint-Priest-en-Jarret et que j'ai pu m'impliquer en tant que simple citoyen dans la mise en place de la bibliothèque devenue médiathèque et dans les groupes de lecture qui démarraient. J'ai pu apprécier son engagement pour la culture et depuis, son engagement dans l'Association des femmes élues de la Loire et dans le domaine de la prévention des cancers. J'ai aussi apprécié son respect des idées et des personnes. Elle a disparu alors qu'elle poursuivait encore ses engagements, mais pouvait-il en être autrement? J'espère que vous pourrez lui rendre hommage, comme vous l'avez exprimé, au bureau de Saint-Étienne Métropole. Et enfin, c'est Hervé Reynaud, le maire de Saint-Chamond, qui nous dit « Je vous adresse mes sincères condoléances pour vous et votre conseil municipal, avec le souvenir ému d'André Chaise, si impliqué dans notre vie citoyenne. Bien à vous. » Voilà, donc, à l'occasion du bureau de Saint-Étienne Métropole et de l'Assemblée plénière la semaine dernière, nous avons rendu un hommage à André, repris par le président Perdriau. Ce que j'ai dit également à certaines occasions, c'est que quand on le pourra, on organisera un événement. La forme reste à définir, la thématique reste à définir, pour lui rendre hommage, mais également, d'une façon ou d'une autre, marquer son implication sur notre commune de Saint-Priest-en-Jarret. Voilà, je vous remercie. Alors le premier point de cette réunion, qui est dissocié volontairement du Conseil, parce que c'est la réglementation qui nous l'impose, c'est le débat d'orientation budgétaire. Vous avez reçu les documents dans le courant de la semaine, et donc on va faire une partition à deux avec Michel. On va aller se mettre au fond pour que vous puissiez suivre sur l'écran. Donc un premier appel réglementaire. Le débat d'orientation budgétaire représente une étape essentielle de la procédure budgétaire des collectivités locales et doit permettre d'informer les élus sur la situation économique et financière de leur collectivité afin d'éclairer leurs choix lors du vote du budget primitif. Le débat d'orientation budgétaire est une étape obligatoire dans le cycle budgétaire des communes de plus de 3 500 habitants. En cas d'absence, toute délibération relative à l'adoption du budget primitif est illégale. Le rapport prévu à l'article L. 2312-1 comporte les informations suivantes. Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement, sont notamment précisées les hypothèses d'évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subvention, ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre, donc Saint-Étienne Métropole. La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d'investissement, comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d'autorisation de programme. Des informations relatives à la structure et la gestion de l'encours de dettes contractées et les perspectives pour le projet de budget. Elle présente notamment le profil de l'encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget. Les orientations visées aux trois points précédents devront permettre d'évaluer l'évolution prévisionnelle du niveau d'épargne brute, d'épargne nette et de l'endettement à la fin de l'exercice auquel se rapporte le projet de budget.
Alors, on va déjà vous donner une première orientation budgétaire, mais qui est très vague. Ensuite, on vous présentera la situation en Europe, en France et puis à Saint-Étienne Métropole avant d'attaquer vraiment les éléments qui sont purement de Saint-Priest-en-Jarez. Donc, bien entendu, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a une situation financière qui est un petit peu contrainte. Elle était déjà, au départ, on vous le dit depuis effectivement l'élection. Et bien entendu, à cause des contraintes sanitaires et de toutes les dépenses que ça a pu entraîner, le budget 2021 sera contraint et on a essayé de le travailler sur les hypothèses d'évolution suivantes. Alors, on va essayer de maintenir les dépenses de fonctionnement au maximum à 1,2%. On est déjà en train de travailler, par exemple, de le finaliser. Et vous verrez, quand on va vous le présenter, que l'augmentation est plus proche des 4,5%. Mais en fait, les 4,5%, c'est de budget à budget. Moi, ce que je vous parle d'évolution de 1,2, c'est par rapport au réalisé. En fait, vous savez qu'on a toujours tendance à gonfler un peu les dépenses pour être tranquille et à minimiser les recettes. Donc, effectivement, sur le réalisé 2020, on va essayer de ne pas augmenter en réalisé 2021, pas en budget, de ne pas augmenter de plus d'un 2%. Pareil pour les recettes de fonctionnement, mais là, c'est plus facile à cerner parce qu'effectivement, on a toujours tendance à minimiser un peu. Les dépenses et les recettes d'investissement, on va essayer de les maintenir au même taux que 2020 parce qu'on vous l'a expliqué de nombreuses fois, on est un peu contraint. Les concours financiers de l'État, il n'y a rien de nouveau. Hein. On a au moins l'avantage, c'est de ne plus avoir de mauvaises nouvelles, parce qu'à partir du moment où on a zéro, on ne peut pas avoir moins. Donc là, on est sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et on pense qu'on aura une certaine stabilité des autres recettes. L'évolution de la fiscalité, la revalorisation forfaitaire des bases va être très limitée cette année. Quand j'ai préparé le DOB, il n'y avait pas le chiffre, on l'a. C'est 0,2% d'augmentation des bases, ce qui est très peu, alors que d'habitude, c'est plutôt 0,8-0,9%. Donc, on va avoir encore, de ce côté-là, une baisse des recettes. L'évolution de tarification, on a voté les tarifs. Il y en a qu'on a augmenté, il y en a d'autres auxquels on n'a pas touché, mais ça, on l'a déjà travaillé. Sur les subventions, on va essayer de ne pas augmenter et peut-être de faire quelques économies dans la mesure où on a des associations qui, en 2020, ont touché leurs subventions, mais n'ont eu aucune activité. Que ce soit culturelle, sportive ou pas les caritatives, parce qu'elles ont certainement beaucoup plus de travail. Donc, on va essayer de recalculer les subventions de façon à ce que si les associations ont une petite pelote, on essaiera peut-être de diminuer un petit peu les subventions 2021. Et bien entendu, on va essayer de maintenir l'équilibre financier entre la commune et Saint-Étienne Métropole.
J'arrive pas à tourner ma page.
Alors, le contexte particulier du fait de la crise sanitaire, bien entendu, on sait que ça a eu un coût. Elle a eu, bien entendu, que ce soit au niveau de Saint-Prié, mais bien entendu au niveau national, au niveau mondial, des répercussions économiques et sociales qui sont très importantes. Et bien entendu, ça aura des effets. Ça a des effets maintenant, mais ça en aura, bien entendu, à court et moyen terme. Hein. Donc, en 2020, l'État, bien, vous le savez, a pris beaucoup de mesures pour soutenir les acteurs privés et publics. Et pour les collectivités en particulier, ils ont prévu quelques mesures. À mon avis, pas énormément par rapport à ce qu'il peut y avoir par rapport au privé. Mais bon, ça, c'est une opinion toute personnelle. On a essayé de faire une avance sur les recettes fiscales et les dotations pour préserver la trésorerie. Nous, une avance sur zéro, ça fait toujours zéro pour moi. Donc, ça ne nous a pas changé grand-chose. La possibilité d'étaler les charges liées au Covid sur plusieurs exercices, c'est-à-dire que sur le budget 2021, on va mettre à part ce qui est vraiment les dépenses et les pertes de recettes purement Covid, sur le compte administratif 2020, pardon, et on avait possibilité de l'établir sur plusieurs exercices. On a fait le choix avec notre chef comptable et en accord avec Christian, bien sûr, de ne pas forcément prendre cette décision parce que si c'était quelque chose qui était terminé, on aurait effectivement un avantage à l'étaler sur plusieurs exercices. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, on ne va pas non plus tirer une balle dans le pied en disant on n'en prend que la moitié cette année et on étalera la charge sur l'année prochaine, sur cette année, sachant que si cette année, on va en avoir encore et peut-être encore les autres années. Donc, on a d'où décidé de supporter la totalité des charges liées au Covid en 2020 sur 2020 et en 2021 sur 2021. Et puis, ils nous garantissent une limitation des pertes de ressources. Alors, ils avaient mis en place un très, très gros dispositif qui devait garantir aux 13 000 collectivités locales une compensation pour les pertes de recettes fiscales. Et finalement, en passant d'entonnoir en entonnoir, ça ne concernera que 2300 communes et qu'une centaine d'établissements intercommunautaires. Et bien entendu, à mon avis, ça, on n'en fait pas partie. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est un peu ce que j'ai mis en noir, c'est que la Cour des comptes rappelle que l'intensité du choc de la crise sanitaire sur les finances des collectivités locales sera certainement beaucoup plus intense que prévu, avec des niveaux d'épargne brute très en recul. Et ces impacts, c'est ce que je vous dis, de la crise se feront certainement sentir sur plusieurs exercices. Donc maintenant, les perspectives économiques, zone euro.
En ce qui concerne les perspectives économiques pour l'année à venir dans la zone euro, en 2020, après une chute vertigineuse du produit intérieur brut, dû aux restrictions au confinement de mars à mai, l'activité a fortement rebondi l'été dernier. Pour autant, l'activité demeure en retrait de plus de 4% par rapport à fin 2019. Les pays plus touristiques, dont la France, souffrent davantage que ceux disposant de secteurs manufacturiers importants comme l'Allemagne. Les mesures de restriction, progressivement réintroduites, devraient à nouveau contracter l'activité, mais dans une moindre mesure. Les gouvernements tentent de minimiser l'impact économique en maintenant les écoles ouvertes et en préservant certains secteurs d'activité, par exemple la construction. Au-delà des plans d'urgence nationaux, le soutien massif des institutions européennes devait atténuer les effets de la deuxième vague de la pandémie en zone euro et contribuer à relancer l'économie une fois celle-ci maîtrisée. De son côté, la Banque centrale européenne a réagi rapidement et significativement, permettant au gouvernement de financer d'importants plans de relance par déficit public. La chute de la croissance du PIB en zone euro est estimée à -8% en 2020, en espérant un rebond pour 2021, mais ça reste à démontrer. Ouais. Pour la France, l'économie est à l'épreuve de la pandémie. Notre économie a été durement touchée par la pandémie. Les périodes de confinement des deux premiers trimestres ont fait fortement chuter le PIB. Et même si un rebond a été constaté à l'été, les nouvelles mesures de restriction ont à nouveau contracté l'économie. La baisse de la croissance française est estimée à -10,3% en 2020, avec un rebond espéré en 2021, mais soumis, bien sûr, aux aléas sanitaires. Sur le marché du travail, l'impact de la pandémie est d'ores et déjà impressionnant. Malgré le dispositif d'activité partielle, dont le coût est estimé à 31 milliards d'euros en 2020, 1,3% du produit intérieur brut, et à 6,6 milliards en 2021, le taux de chômage devrait culminer au-dessus des 11% mi-2021 et atteindre 8% fin 2022. Pour atténuer l'impact économique et social, le gouvernement a accompagné le premier confinement de mesures pour soutenir les entreprises, les ménages et les secteurs les plus durement touchés pour un montant de 470 milliards d'euros. En septembre, un plan de relance de 100 milliards a été lancé, financé à hauteur de 40 milliards par l'Europe, puis augmenté de 20 milliards pour faire face au deuxième confinement. Depuis le début de la pandémie, l'inflation a fortement baissé, passant de 1,5% en janvier 2020 à 0% en septembre, son plus bas niveau depuis mai 2016. Cette baisse est due à l'effondrement des prix de certains biens et services, induit par une forte baisse de la demande mondiale. La chute des prix du pétrole est ainsi largement à l'origine de la disparition de l'inflation française, qui a atteint 0,5% en 2020 et demeurera à 0,6% en 2021. La demande des crédits de trésorerie par le développement de prêts garantis par l'État a atteint un niveau record. Fin septembre, les crédits mobilisés par les entreprises atteignaient 1170 milliards, principalement dans les secteurs en crise, hébergement, restauration, services aux entreprises et transports. Je dis bien 1170 milliards. Pour 2021, le gouvernement prévoyait dans le projet de loi de finances 2021 avec le nouveau confinement, une dette publique de 116,2% du produit intérieur brut, dont les effets seront heureusement atténués par des taux d'intérêt qui devraient rester extrêmement bas.
Alors l'impact au niveau de Saint-Étienne Métropole, qui est intéressant parce que ça nous impacte aussi, le département de la Loire et Saint-Étienne Métropole ont arrêté les modalités de transfert de compétences depuis le 1er juillet 2020. Vous savez que le département a transféré pas mal de compétences à Saint-Étienne Métropole et en particulier la voirie départementale. Donc bien entendu, en 2021, ces transferts comptent pour une année pleine au niveau comptable. Pour faire face à la crise Covid, SEM a souhaité s'engager dans un plan de relance métropolitain en soutien à l'économie du territoire, qui viendra en complément et pas en substitution du plan qui a été annoncé par l'État. Et l'enjeu qui est important pour nous, c'est que ce que les fonds ruissellent, ce qu'ils appellent dans les collectivités, actrices majeures de la commande publique, puisque peut-être en subventionnant certains travaux qui nous permettront, nous, de peut-être monter notre niveau d'investissement et effectivement de faire travailler les entreprises qui travaillent essentiellement avec les collectivités publiques. Parallèlement, SEM va s'engager dans un dialogue avec les organismes prêteurs afin de garantir l'accès aux prêts de toutes les communes du territoire dans les mêmes conditions que la métropole. Et bien entendu, ça peut être intéressant pour nous parce que les tarifs peuvent être préférentiels en raison des volumes traités. Saint-Étienne Métropole a plusieurs millions de je ne sais plus exactement le montant d'emprunt, mais par rapport à nous, c'est beaucoup plus. Et ce qui serait intéressant, c'est effectivement Saint-Étienne Métropole fasse un peu le forcing auprès des banques pour soutenir un peu les communes participantes, les communes adhérentes, en raison de la difficulté du Covid. Dans ce contexte de 2021, aucune hausse de fiscalité, je parle de Saint-Étienne Métropole, n'interviendra. Le montant de la dotation de solidarité communautaire et du fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, ce qu'on appelle le FPIC, sera inchangé dans l'attente du futur pacte financier qui sera construit en 2021. Mais bien entendu, Saint-Étienne Métropole a subi exactement la même chose que nous. C'est la perte des recettes de fonctionnement, puisque eux aussi, ils ont eu beaucoup moins de recettes, que ce soit dans les transports, dans les piscines, dans le musée d'art moderne, enfin tout ce qui peut être métropolitain. Et c'est estimé à 4,2 millions d'euros, alors que les dépenses, elles, devraient augmenter de 5,8 millions d'euros. Donc vous voyez, même peine, même conséquence. L'épargne nette devrait donc reculer de 26,9 millions d'euros en 2020. Elle était de 26,9 millions en 2020, elle reculera à 18,8 millions. Et en sachant que pour Saint-Étienne Métropole, le seuil qu'il ne faut pas atteindre, en dessous duquel il ne faut pas descendre, c'est 15 millions d'euros, parce que c'est ce qu'ils ont absolument besoin pour financer leurs investissements. Donc vous voyez, ils en sont un petit peu plus haut, mais il faudra quand même pas trop s'éloigner. Malgré ces difficultés, donc ils vont quand même faire des dépenses d'investissement du même niveau qu'en 2020, c'est-à-dire en 25,5 millions d'euros de remboursement de capital de la dette et 90 millions en dépenses d'équipement. Mais par contre, comme ils n'ont pas fait encore leur PPI, c'est-à-dire leur plan pluriannuel d'investissement 2021-2026, les crédits 2021, et bien entendu en raison de la crise, ça va être que des continuités d'opérations, du renouvellement de matériel, des investissements indispensables, des investissements récurrents. Il n'y aura pas de gros programmes nouveaux d'investissement en 2020 sur Saint-Étienne Métropole.
Donc, en ce qui concerne Saint-Priest-en-Jarez, l'impact budgétaire de la Covid-19 au premier semestre, j'insiste, parce que c'est les chiffres qu'on avait finalisés à fin juin, vous aurez les chiffres définitifs à fin décembre, lors du prochain conseil municipal. Donc, le coût global est de 116 821 euros. Cette augmentation, enfin, cette dépense, si vous voulez, non prévue, annule de fait la recette supplémentaire que nous attendions par l'augmentation du taux de la taxe foncière. Et donc, ça n'est pas, comme le disait Michel, une dépense ponctuelle. On sait très bien qu'un certain nombre de coûts vont perdurer, ne serait-ce que les masques, le gel, les essuies, entre autres. La poursuite d'une gestion maîtrisée menée depuis des années nous a permis en 2020 de continuer à contenir nos charges de fonctionnement, mesure indispensable en raison de la disparition totale de notre dotation globale de fonctionnement. On ne va pas revenir dessus. Un excédent à fin 2020 de 1 674 000, alors c'est un excédent cumulé, hein, augmente donc de 22,3% par rapport à celui de 2019. Et la dette communale diminue encore sur l'exercice 2020 pour atteindre un peu plus de 6 millions d'euros, soit en dessous des 1 000 euros par habitant.
Alors, on va faire une synthèse du fonctionnement. Là, en fait, c'est plutôt le compte administratif 2020. C'est plutôt les résultats de 2020 qui ont été constatés en fin d'année. Alors, on a une hausse des recettes fiscales et une stabilité des dotations. Donc, les recettes, vous voyez, il n'y a pas de grand changement. On peut constater une augmentation des ressources fiscales. C'est normal, puisque c'est quand même l'impact, effectivement, de notre augmentation de fiscalité. Qui a été cumulé sur une hausse des bases d'imposition qui a été de 0,9% en 2020. Les DGF et autres dotations, elles ont encore un tout petit peu diminué, mais c'est vraiment à la marge. Et par contre, ce qui est intéressant dans ce slide, c'est qu'on voit que nos produits réels sont passés de 748 à 584. Et ça, bien entendu, c'est la baisse de tous nos services, de tout ce qu'on n'a pas touché pendant le confinement, toutes les structures qui n'ont pas été ouvertes, le centre de loisirs, la crèche, tout ça. Effectivement, pas de crèche, pas de recettes. Donc, dans les recettes, on reste quand même... Heureusement, on peut dire qu'on a augmenté la taxe foncière, puisqu'on a, sur la totalité des recettes 2020, on augmente quand même de 1,34% par rapport à 2019. On aurait encore baissé si on n'avait pas pris cette disposition d'augmenter les impôts. Sur les concours financiers de l'État, là non plus, pas grand-chose de nouveau. Vous voyez que la DGF, elle reste stable. Et les compensations fiscales ont augmenté un petit peu. Donc, effectivement, les compensations fiscales, c'est logique, puisqu'on touche plus d'impôts. Il y a plus, Donc, automatiquement, vous savez, l'État compense pour les gens qui ne payent pas d'impôts, qui sont exonérés, taxes d'habitation, Et donc, forcément, un peu plus de volume d'impôts, un peu plus de volume de compensation fiscale. Donc là, 4,92, mais vous voyez, ce ne sont quand même pas des sommes très importantes. Ça reste quand même encore à la marge. Sur les concours financiers de Saint-Étienne Métropole, il n'y a pas de changement non plus. On voit que la dotation de solidarité communautaire, elle est fixée. Elle reste depuis plusieurs années à 473. Elle restera pareil cette année, puisqu'ils n'ont pas décidé d'augmentation. Et l'attribution de compensation, celle qui a été calculée au moment où on est passé à Métropole, a tout petit peu diminué. Je pense que c'est... encore une histoire de bordereau d'eau, ou je ne sais pas. Enfin, c'est à la marge, mais on voit que ça a encore eu tendance à un peu diminuer, puisqu'on est passé de 2 435 000 euros à 2 420, donc moins 0,61% de baisse. Donc les recettes de fonctionnement, donc on reprend, elles ont augmenté. Les recettes fiscales progressent, elles, de 5,15%. Ce qu'on vous a dit, l'impact de la hausse de fiscalité qui a été atténué par la baisse des recettes due au confinement. La réforme de la taxe d'habitation, on est sûr de toucher la même somme, nos produits à l'euro près, au moins jusqu'en 2023. Après, normalement, ça devrait perdurer, mais il faut toujours être très prudent sur ce genre de choses. Et bien entendu, on redit, la disparition quasi complète des dotations d'État, sans espoir de retour, nous obligera à rechercher de nouvelles recettes.
Oui, la compensation sur la taxe d'habitation, c'est calé sur le montant, enfin sur les bases 2019 et les montants 2019. Ça veut dire que chaque année, comme on le disait tout à l'heure, l'actualisation des bases, même si on ne touche pas au taux, produit un effet positif. Là, c'est figé. Il faut qu'on reçoit exactement le même montant pour les années à venir sans actualisation.
Alors, parallèlement, c'est ce qu'on essaye de faire depuis des années, d'essayer d'augmenter un petit peu nos recettes et de baisser nos charges, de façon à ce qu'on se retrouve avec des excédents qui sont plus intéressants. Sur les subventions et participations, on a un petit peu baissé de 551 à 510. C'est une baisse à la marge, mais effectivement, il y a eu moins de participation des événements, des choses comme ça, moins de subventions exceptionnelles puisqu'il n'y a pas eu d'événements. Ça nous a fait un tout petit peu baisser ce taux-là. Les charges financières baissent aussi, mais ça, c'est normal puisque déjà, on emprunte moins d'année en année et puis nos emprunts vieillissants, la partie intérêt baisse aussi. Et puis, il y a un taux d'intérêt qui est de plus en plus faible. On a même certains emprunts qui sont en taux négatif. Donc, voilà. Donc, ça, c'est normal. La partie intérêt baisse un peu. Les charges de personnel, ça, c'est plus intéressant. Elles ont également encore diminué puisqu'on est passé de 5 175 000 à 5 100 000. Alors, ce n'est pas une énorme baisse, mais c'est encore une baisse par rapport à 2018, qui avait été quand même une année assez exceptionnelle. On était monté à 5 443 000 euros sur les charges de personnel. Et ça, on va essayer aussi de maintenir cette baisse régulière des charges de personnel. On vous l'a dit plusieurs fois, à chaque fois qu'il y a un départ, on essaye de pas forcément remplacer un pour un et on essaye de redistribuer et de voir comment on peut effectivement faire des économies. Donc les charges en 2020 ont baissé quand même de 3,85%. Ça paraît pas énorme, mais il faut savoir que dans ces catégories-là et surtout sur les charges générales, il y a des choses qui augmentent. Hein. Vous avez entendu l'électricité, le gaz, tout ça, ça augmente régulièrement. Et donc, au lieu d'impacter ces hausses-là, on essaye, nous, au contraire, de diminuer. Et on remercie encore une fois les services parce qu'elles jouent vraiment le jeu. Et quand on leur donne un budget, elles le tiennent. Et quand on leur diminue encore un peu, ça râle un peu, mais ça tient encore. Et vraiment, on peut les remercier parce qu'ils jouent vraiment le jeu. Donc voilà, pour la deuxième année, des efforts, voilà, c'est ce que je dis, ont été réalisés par les services, hein, qui ont bien géré. Par contre, les charges de personnel, il faut un petit peu minimiser parce que c'est vrai qu'on a aussi eu l'impact des mesures Covid sur les agents horaires. Parce que ce soit au centre de loisirs, que ce soit à l'école, c'est des domaines dans lesquels on a beaucoup d'agents horaires. Et bien entendu, ben, quand ces services-là sont fermés, on ne les a pas, ces agents-là. Donc forcément, ça a diminué aussi un peu à cause de ça. Donc on revient sur l'excédent, qui est le meilleur chiffre depuis 13 ans. Mais Christian va vous en parler sur le slide d'après.
Oui, donc là, vous avez la courbe hein, d'évolution des excédents. Alors, il faut neutraliser 2016. On a eu un résultat un petit peu atypique compte tenu d'une rentrée financière inattendue. Vous voyez bien qu'en 2014, on était à un excédent cumulé d'1 195 000 euros. Et là, fin 2020, on est à 1 675 000 euros. Le seul regret qu'on ait, c'est que la Cour des comptes a examiné les exercices 2017 et 2018 qui étaient parmi les plus faibles. Mais ça, c'est autre chose.
Donc, évidemment, c'est comptable. Hein. Si vos charges diminuent et vos recettes augmentent, ben vous augmentez votre capacité d'autofinancement. Et c'est le premier exercice en 2020, depuis longtemps, que notre CAF a été positive. C'est-à-dire que lorsqu'on prend la différence entre nos recettes brutes et qu'on enlève les charges brutes et qu'on enlève encore à ce chiffre-là le remboursement du capital de l'emprunt, on a enfin obtenu en 2020 une CAF positive. C'est-à-dire qu'on a un chiffre de fonctionnement qui est positif, ce qui n'était pas arrivé depuis 17 ans. On avait une CAF positive qu'en 2012. Et là, vous voyez, elle était encore de 124 000. Là, on est plus près des 180 000. Donc, c'est vrai que 2020 est quand même, malgré la crise et malgré... c'est quand même un bon résultat. Mais il ne faut quand même pas oublier que c'est quand même très atypique, la crise, parce que ça nous a coûté. Mais il y a des choses qu'on n'a pas dépensées aussi. Donc, il va falloir arriver à revenir sur une année plus normale, au moins de fonctionnement des services, pour voir si nos efforts perdurent et restent surtout sur le même chiffre. Alors, sur les investissements, bah toujours, hein, on va essayer de contrôler les dépenses d'investissement. Ça ne nous permet pas de prévoir de grands projets en 2021, mais ça, on vous l'avait dit. En 2020, on a arrêté les investissements à partir de septembre. Hein, on a totalement arrêté, puisqu'on avait les soucis de trouver un établissement bancaire pour les emprunts. Sur 2021, dans ce domaine-là, on va aussi rester très prudent. Et par exemple, on a eu recours à de nouvelles solutions. Hein, comme ce qu'on vous a expliqué, on a acheté la balayeuse en mutualisation avec la commune de Villars, ce qui nous a quand même fait une économie de 100 000 euros. Puisqu'une balayeuse coûte plus de 200 000 euros et c'est quand même pas une paille sur un budget communal. Donc 2021, ben les investissements, ça sera surtout les investissements prioritaires. On va continuer bien entendu de la voirie, mais ça, la voirie, c'est sur un budget à part, hein, c'est le budget Saint-Étienne Métropole. On va faire essentiellement les rues Martourelle, la rue de la Piolle, l'impasse de la Bargette. Il y en a d'autres encore, d'autres petits bouts. On va continuer l'enfouissement d'éclairage public. On va finir les travaux de l'EMA. D'ailleurs, ils sont presque finis, là, maintenant, puisque, étant donné que l'école est fermée, ça nous a permis, comme ce sont nos agents qui travaillent, de pouvoir travailler plus vite que prévu sur l'EMA, et on ne va pas tarder à finir les travaux. Et puis, ce qu'on vous avait expliqué lorsqu'on a fait les demandes de subvention, on va essayer de réparer le plafond du NEC, où il y a beaucoup de dalles qui sont tombées, et on va essayer de faire une réfection totale. Et toujours, bien entendu, ce qu'on fait, c'est une recherche systématique de subventions. Parce que même si la subvention ne fait que 5 ou 10 ou 15 % du montant, c'est toujours de l'argent que la commune ne dépensera pas. Donc l'encours de la dette a baissé en 2020 de 2,5% pour atteindre 6 025 000. C'est normal, puisqu'on emprunte moins, donc notre encours de la dette diminue. On a atteint notre objectif de 1 000 euros par habitant, mais ça doit être encore revu à la baisse. Je ne sais pas si vous vous rappelez qu'un de nos engagements de campagne était qu'on descende à 750 euros par habitant. Donc, bien entendu, notre recours à l'emprunt en 2021 sera limité, et surtout parce que c'est déjà un engagement. Et puis surtout, on a un peu été échaudé par notre difficulté l'année dernière pour trouver des partenaires financiers. Donc, on préfère être prudent cette année en croisant les doigts pour que, effectivement, le nouvel organisme qui nous a suivis nous ne lâche pas en 2021. Donc, on fera au grand... Alors là, j'ai mis au maximum de 500 000 euros. On part plutôt sur un emprunt de 400 ou 450 000 euros plutôt que 500 000. Bien entendu, toujours pour avoir une situation financière stable. Donc, le slide d'après reprend ça. Vous voyez, c'est nos dépenses d'équipement. Il faut savoir qu'on est quand même très, très bas pour une commune de notre strate en dépenses d'investissement. On est vraiment, on dépense très très peu en investissement, mais toujours parce qu'on a notre problème fonctionnel de charges de fonctionnement qui sont trop importantes. Donc le pic de 2018 correspond au Clos Bayard, aux gros travaux qui avaient été faits sur le Clos Bayard. Et effectivement, sur 2019 et 2020, on est plutôt sur une, un peu comme Saint-Étienne Métropole, sur une poursuite de ce qu'on a commencé et puis sur des investissements qui sont indispensables. Mais sur 2021, il n'y aura pas de gros projets nouveaux.
Donc, en ce qui concerne la dette cumulée, donc on constate bien sûr une inflexion. L'objectif des 1 000 euros par habitant est atteint puisqu'on est en dessous. Alors après, l'objectif de campagne, on verra bien. Ça dépendra aussi du contexte. Donc, on tombe actuellement à moins de 1 000 euros. Sachez quand même que quand on dit qu'on a 6 millions et quelques d'emprunts en cours, on rembourse quand même, là ça sera ce qu'on va rembourser en 2021, 810 000 euros. Donc vous comprenez que même si on a près d'un million sept d'excédents cumulés, là-dessus il faut imputer 810 000 euros. Et encore, bien sûr, ces annuités vont baisser avec le temps, mais elles baissent d'un côté, mais si on reconstitue de l'emprunt, évidemment ce sont des nouvelles annuités qui viennent s'ajouter. Donc il n'y a pas une bascule brutale des remboursements, parce qu'on arrive à maintenant dans les emprunts qui avaient été souscrits il y a encore à l'époque Chaboissier sur 25 ans. Là, on arrive un peu à la fin. Mais la baisse de ces remboursements annuels n'est pas aussi spectaculaire qu'on pourrait s'y attendre. Ou alors, il faudrait pendant plusieurs années ne plus faire d'emprunt pour assister effectivement à une chute brutale de l'emprunt. Mais souvenez-vous des chiffres, c'est quand même plus de 800 000 euros par an, hors intérêt, qui sont remboursés. Et quant à notre capacité de désendettement, alors là aussi c'est un ratio, c'est pour ça que je disais tout à l'heure en rigolant, c'est dommage que la Chambre régionale des comptes ait regardé les comptes 2017-2018, donc 22 ans et 20 ans, là on vient de tomber à près de 6 ans, 5 années 94. Donc voilà, on est en dessous du fameux seuil de vigilance qui avait été un de leurs critères. Et là c'est un effet mécanique, en fait ça dépend aussi des paramètres qu'on prend pour calculer ces ratios. Donc il faut être très prudent dans l'interprétation de ces ratios, mais pour autant... Ce n'est pas tant la Chambre régionale des comptes, mais c'est surtout nos partenaires financiers. Quand on les rencontre pour discuter, ce sont tous les indicateurs qu'ils observent. Donc là, on est plutôt sur la bonne voie. Donc voilà, on a fini la présentation un petit peu rapide de cette orientation budgétaire pour l'année 2021. Est-ce que vous avez des questions particulières sur ce débat d'orientation budgétaire ? Ce que je vous demanderai simplement, d'un point de vue purement pratique, puisqu'on est filmé, quand vous demandez la parole, vous attendez qu'on vous donne un micro et vous vous présentez, simplement pour que les gens qui nous regardent puissent identifier les intervenants. Donc, des questions ? Donc là, on vous a défini le cadre dans lequel on va travailler sur le budget. Donc, en mars, vous aurez deux choses. D'une part, Le résultat, hein, le compte de fonctionnement de l'année 2020, qui confirmera les premiers chiffres qu'on vous a indiqués. Et puis, à partir de là, les propositions budgétaires dont nous aurons à débattre. Pas de questions ? Donc, on va passer maintenant à l'ordre du jour du Conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions sur le procès-verbal de la séance précédente ? Des observations, des remarques ? Donc, on peut passer au premier point, qui est l'état des décisions du maire. Donc, là aussi, je vous rappelle, je ne vais pas les commenter, vous les avez. Ça va de la décision 48 à la décision 73 sur 2020 et aux décisions 1 à 5 sur 2021. Donc c'est l'ensemble des décisions, en particulier de dépenses, que j'ai eu à signer par délégation du Conseil. Le point suivant, c'est l'éclairage du Pierre Mendès France. Si Jacques veut nous dire un petit mot sur cette question, tu veux intervenir ?
Froid là. Donc, ce qui a été exposé, c'est les travaux d'éclairage de l'avenue Pierre Mendès France. Le financement, dans le détail, c'est un montant en taxe de travaux de 38 190 euros. Voilà. La participation de la commune pour 37 426 euros. Et Saint-Étienne Métropole ne participe pas. Voilà. Que dire sur ces travaux ? Le ciel prend la différence. Hein, la différence que vous avez sur le montant est prise en compte par le ciel. Le ciel assurera la maîtrise d'ouvrage des travaux, de ces travaux, dans des conditions indiquées ci-dessus, étant entendu qu'après étude des travaux, le dossier nous sera soumis pour information avant exécution. Prendre acte que les travaux relevant de la compétence de Saint-Étienne Métropole seront assurés en coordination avec la métropole et que le chantier sera débuté après délibération de Saint-Étienne Métropole. Approuver le montant des travaux de la participation prévisionnelle de la commune, étant entendu que le fonds de concours sera calculé sur le montant réellement exécuté. Prendre acte que le versement de fonds de concours du ciel est effectué en une seule fois, décider d'amortir comptablement ce fonds de concours en 15 années et autoriser le missionnaire à signer les pièces à intervenir.
Des questions ? En fait, quand on parle de fonds de concours, c'est-à-dire c'est que nous demandons à Saint-Étienne Métropole de payer pour nous un certain nombre de travaux, et en particulier tout ce qui touche à la voirie et à l'éclairage public. Alors la voirie, ça s'impute sur l'enveloppe que nous avons auprès de Métropole, qui est à peu près de 300 000 euros par an. Et ce qui avait été évoqué lors d'une assemblée plénière métropolitaine, mais je ne sais pas si ça aboutira, c'est que sur les fonds dédiés à la relance, tel que Saint-Étienne Métropole l'a envisagé, si ces fonds n'étaient pas intégralement utilisés, ce qui avait été demandé, c'est que le reliquat puisse être redistribué aux communes, en particulier en complément de l'enveloppe voirie de l'année 2021, ce qui nous donnerait un petit peu plus de marge de manœuvre en termes de travaux. Des questions ? Y a-t-il des abstentions ou des votes contre ? Donc, à l'unanimité, cette décision est adoptée. Je vous en remercie. Le point suivant, c'est le pacte de gouvernance. Donc, depuis la loi engagement et proximité du 27 décembre 2019, les communautés et les métropoles peuvent décider par une délibération du Conseil communautaire d'élaborer un pacte de gouvernance dans le but notamment d'associer les élus municipaux au fonctionnement intercommunal. En ce début de mandat, chaque assemblée délibérante doit obligatoirement organiser un débat et prendre une délibération sur l'opportunité ou non d'élaborer un pacte de gouvernance. Si la décision est prise de mettre en œuvre un tel dispositif, l'intercommunalité dispose de 9 mois suivant l'élection des conseillers municipaux pour approuver ce pacte. L'avis des conseils municipaux est requis dans un délai de 2 mois après la transmission du projet par le conseil communautaire aux communes membres. Dans les faits, cela amène les intercommunalités à élaborer, en lien avec les communes, le pacte de gouvernance avant le mois de mars 2021. Le pacte de gouvernance est un outil important au service de l'intercommunalité et de ses communes membres. Il peut prévoir les modalités nouvelles de consultation des communes membres, et ce, notamment, lorsqu'une délibération communautaire a des effets seulement pour une commune, la mise en place de conférences territoriales, la délégation par convention de la gestion de certains équipements communautaires par les communes membres, ou encore la possibilité pour les élus municipaux non communautaires d'assister aux commissions intercommunales. Comme souhaité par la loi Engagement et proximité, la mise en place d'un pacte de gouvernance peut être un moyen de replacer les élus communautaires et municipaux au cœur de l'intercommunalité, dans sa gouvernance et son fonctionnement quotidien. Donc je vais vous demander de vous prononcer sur la proposition de pacte de gouvernance transmise par Saint-Étienne Métropole. Je voudrais un petit peu rentrer dans le détail préalablement. Vous aviez reçu les documents en leur temps. C'est simplement le pacte de gouvernance, c'est la façon dont Saint-Étienne Métropole s'organise dans la gestion d'intercommunalité. Par délibération en date du 5 octobre 2020, le Conseil métropolitain a décidé de mettre en place un pacte de gouvernance, ainsi que le propose donc l'article L5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales, issu de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la ville et à la proximité de l'action publique. Dans ce cadre, si les groupes de travail initialement prévus n'ont pas pu se tenir en raison de la crise sanitaire, un projet de pacte de gouvernance a été établi et validé par les vice-présidents, puis adressé à l'ensemble des maires des communes membres de Saint-Étienne Métropole. Le projet a ensuite été l'objet d'un examen par les maires dans le cadre de la conférence des maires qui s'est tenue le 19 janvier 2021, qui ont pu faire part de leurs observations. En vertu des dispositions du Code général des collectivités territoriales, Saint-Étienne Métropole doit adopter ce pacte dans les 9 mois à compter du renouvellement général des membres du Conseil métropolitain, après avis des conseils municipaux rendus dans un délai de 2 mois, et après transmission du projet de pacte de gouvernance tel qu'annexé à la présente délibération. Donc ce pacte de gouvernance sera également intégré au futur pacte métropolitain. Le pacte est l'occasion de réaffirmer les principes fondamentaux de Saint-Étienne Métropole en matière de gouvernance, confirmer le rôle des maires dans la définition des politiques métropolitaines ainsi que leur place dans les différentes instances décisionnelles, confirmer l'ambition collective des élus métropolitains pour un développement harmonieux de l'ensemble du territoire, rural comme urbain, et leur volonté unanime de favoriser son rayonnement et son attractivité. Ces modalités d'élaboration, arrêtées lors de la réunion des vice-présidents et validées en conférence des maires le 19 janvier 2021, sont les suivantes. L'élaboration d'un projet de pacte à partir des instances de gouvernance qui existent déjà. Des pratiques en cours issues notamment du pacte métropolitain de 2015. De la gestion territorialisée, sous forme de conférences territorialisées, et des nouvelles pistes qui s'ouvrent avec la mutualisation. Le présent pacte s'organise ainsi autour des principes fondateurs, des instances légales de gouvernance, des commissions permanentes thématiques, de la conférence des maires, d'instances d'information et de concertation, d'un dispositif d'exercice opérationnel des compétences de proximité. Donc ça, c'est la gouvernance. On vous fera un petit compte-rendu tout à l'heure dans les questions diverses de la dernière assemblée plénière, qui était assez épique. 14h30, 21h30. Dont 3 heures de débat sur la gestion de l'eau. Le principe fondateur du pacte de gouvernance. Donc ces principes sont les suivants. Une agglomération forte avec des communes fortes. Les communes et les maires au cœur du processus décisionnel. Les instances légales de gouvernance de Saint-Étienne Métropole. Donc ces instances légales sont le conseil métropolitain, 123 conseillers métropolitains issus des conseils municipaux des 53 communes qui élit le bureau. Le bureau, lui, se compose donc de 19 vice-présidents et de 52 autres membres, dont tous les maires des communes de la métropole. Ils se prononcent sur l'ensemble des délibérations avant leur passage en conseil métropolitain. Les commissions permanentes thématiques. Saint-Étienne Métropole compte 11 commissions permanentes thématiques, telles que reproduites ainsi, donc finances et affaires générales, eau, assainissement, contrat de rivière, GEMAPI. GEMAPI, c'est la prévention des risques d'inondation. Les déchets, le rayonnement du territoire en matière de tourisme, culture, patrimoine et sport, la cohésion sociale, les mobilités, la voirie, la cohésion territoriale, les grands projets d'aménagement et de développement durable, l'habitat, le développement économique, enseignement supérieur, recherche, innovation, entrepreneuriat, numérique et design, et enfin, la stratégie alimentaire, économie et transition agricole. La conférence des maires donc, est obligatoire pour les établissements publics intercommunaux à fiscalité propre, sauf lorsque le bureau d'établissement comprend déjà l'ensemble des maires des communes membres. C'est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres au sein de laquelle il peut être débattu de tous les sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités. Les instances d'information et de concertation, donc il y a l'Assemblée générale, la conférence territoriale thématisée, pardon, les réunions des directeurs généraux des services et secrétaires de mairie et les réunions des différents réseaux thématiques. Donc voilà un petit peu rapidement la présentation du projet de pacte de gouvernance que je vous demande maintenant d'approuver. Donc simplement la présentation de la mécanique. Et vous voyez que on retrouve bien sûr une représentation des communes de toutes les instances, que ce soit l'Assemblée plénière, le bureau où il y a effectivement les 52 maires, ou la conférence des maires où il y a tous les maires, mais à chaque fois, on retrouve par exemple dans le bureau les 19 vice-présidents. Donc là aussi, il y a une... Bon, après c'est un avis personnel, mais en termes de représentation territoriale, les instances politiques sont quand même omniprésentes. Est-ce que vous avez des questions sur ce pacte de gouvernance, sur la façon dont il fonctionne? Bon, c'est un petit peu simplement la continuité de ce qui existait avant. Hein. Sachant qu'il y a donc deux réunions de bureau par mois, une réunion plénière et puis la conférence des maires en fonction des thématiques. On peut passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des personnes qui s'abstiennent ou qui votent contre? Donc, à l'unanimité, nous approuvons le pacte de gouvernance de Saint-Étienne Métropole. Je vous en remercie. Le deuxième document qui vous est soumis, c'est le projet de convention. C'est le projet de convention et d'études et de veille foncière sur le site de la DOA avec EPORA, qu'on connaît déjà, donc établissement public foncier Ouest-Rhône-Alpes et Saint-Étienne Métropole. En tant qu'établissement public national à caractère industriel et commercial, chargé de missions de service public, l'EPORA est compétent pour procéder à toute acquisition foncière et toutes opérations immobilières et foncières de nature à faciliter l'aménagement. Il est ainsi habilité à effectuer les études et travaux nécessaires à leur accomplissement et, le cas échéant, à participer à leur financement. Dans ce cadre, l'EPORA s'est porté acquéreur d'un tènement foncier de 105 000 m² situé sur le site de la DOA et plus particulièrement sur la commune de Saint-Priest-en-Jarret. Sur ce site reconnu comme une opération d'aménagement d'intérêt métropolitain, par délibération du Conseil métropolitain du 3 octobre 2019, la métropole souhaite créer un parc naturel, réaménager la rivière du Rio Tor et réhabiliter les zones humides du site, aménager un accès direct au musée d'art moderne contemporain avec la création d'un échangeur complet depuis la 72, créer un parking et une piste cyclable. Pour cela, une convention d'études et de veille foncière avec l'EPORA, Saint-Étienne Métropole et la commune de Saint-Priest-en-Jarret, en qualité de collectivité partenaire, doit être signé pour une durée de 6 ans. Donc le document, vous l'avez eu, il est très dense, il reprend l'ensemble de la convention. Donc pour nous, l'essentiel, il est résumé. Hein. C'est la création d'un parc naturel, urbain, en entrée nord de Saint-Étienne. Ça, c'est nouveau, on a vu apparaître cette notion de réaménager la rivière, le Rio Tor, qui va jusqu'au parc Jean-Marc, et réhabiliter les zones humides du site, dans une démarche éco-responsable. Aménager un accès direct au musée d'art moderne et contemporain avec la création d'un échangeur complet depuis la 72, c'est le doublement de l'échangeur du rond-point de l'avenir. Et ça aussi, initialement, c'était dans le contrat État-Région qui a été abandonné. Donc Saint-Étienne le replorant maintenant à son compte. Et enfin, la création d'un parking, je dirais une extension du parking du musée d'art moderne avec une piste cyclable. Là aussi, ça répond à des attentes. Donc voilà. On ne va pas faire rentrer dans le détail de cette convention. Déjà, bon, on y est associé. Alors, avec Jordan Da Silva, le maire de Villars, on avait fait un courrier à Gaël Perdriau pour lui demander justement d'être pleinement associé à cette démarche. Villars n'y est pas parce que l'autre partie du terrain de la Doye, qui est en bordure d'autoroute et qui est sur Villars, est déjà une propriété de Saint-Étienne Métropole. Donc il n'y a pas besoin de repasser par EPORA avec une convention d'études et de veille foncière. Avez-vous des questions par rapport à ce projet ? Alors, je vous rappelle quand même que dans l'acte de vente, il est prévu, alors je le fais à ma façon, hein, sans rentrer trop dans la formulation juridique, il est prévu que dans cette lié à l'acquisition, pendant 30 ans, il n'est pas possible de créer des structures à vocation habitat ou commerciale. Il y aura peut-être des petites structures, mais bon, c'est simplement pour aménager le parc. Donc là, vous voyez que ça a traîné. C'est un dossier que Jean-Michel Pauze aurait voulu faire aboutir avant la fin de son mandat. Ça a bien bougé au cours des deux dernières années. Et là, Métropole accélère le rythme. Donc on va avoir, je pense, courant 2021, les premières études et les premiers projets. Donc là, à partir de cette convention, ça va être le lancement du marché. Des questions ? Pas d'intervention ? Non, non, alors là, le terrain... Oui, pardon.
Ouais, non, j'avais deux questions dans ce cas. Alors, qui est-ce qui va recevoir le paiement ? Et puis, quels seront nos moyens de participation ? Comme vous dites, on veut participer, mais sur quels moyens ? Comment on va pouvoir influencer sur ce projet ?
Alors, le terrain appartenait à la société mère de Castorama. Donc, Saint-Étienne Métropole, fin 2018, début 2019, a acquis ce terrain. Et maintenant, il le rétrocède à EPORA, qui va faire le projet. Donc, s'il faut aménager, construire, tout ce qui va être études, etc., c'est EPORA qui va mener l'ensemble du processus, sous, bien sûr, couvert de Métropole et de Saint-Priest-en-Jarez. Et quand le projet est finalisé, il est rétrocédé à Saint-Étienne Métropole, dans son coût global.
Oui, j'étais avec Michel Clémenceau cet après-midi au téléphone pendant une heure. Là, il a déjà commencé à travailler sur le site, identifier des sources, le tracé actuel du Rio Tor, inventorier les végétaux qui existent et les plantes qui existent sur le site, de manière à ce qu'on soit pas simplement, grâce à lui, des spectateurs, mais qu'on soit aussi acteurs de cette opération-là. Moi, mon idée, c'est de faire un parc le plus naturel possible, le plus simple possible, qui ait des coûts de fonctionnement minimes et qui soit très naturel et très simple pour les gens qui en bénéficieront. Après, on verra ce que nous sortirons les bureaux d'études en charge d'établir les avant-projets.
Et on voit un besoin d'augmenter l'échangeur, enfin le rond-point. Il y a tel trafic qu'il y a besoin de désenclaver ça.
Alors, le doublement de l'échangeur, il faut voir, donc c'est en sortie, en venant de Saint-Chamond, on sort tout de suite au musée, mais on ne peut pas pour l'instant, et on repart vers le tunnel, vers Saint-Chamond, à cet endroit-là. L'étude qui avait été menée il y a maintenant au moins 6 ou 7 ans, c'était la réflexion pour désengorger l'accès au CHU via Aratarieux. En fait, aujourd'hui, les gens sortent à Aratarieux pour accéder au CHU. L'idée, c'est qu'il y ait cette sortie en amont pour que les gens s'orientent vers le CHU, donc vers, en prenant la rue Albert-Raymond ou la rue Pierre-Mendès-France, et pas passer par Aratarieux. Donc le besoin, il était essentiellement là, hein, en termes d'accès au CHU. Donc dégager l'échangeur qui est plus bas. Alors après, j'entends ce que dit Jacques sur l'aménagement, etc. C'est vrai qu'on voit réapparaître l'aménagement et la mise en valeur du Rio Tor. C'est vrai aussi qu'il y a quelque temps, on a vu, sous forme d'une plaisanterie, une réponse de Pierre Drillaud à son opposition écologiste en disant « on va faire une grande base de loisirs, comme c'est le cas à Lorette ». Bien évidemment, ce n'est pas possible. Mais il y a quand même une piste à creuser de ce côté-là sur cette réhabilitation du Rio Tor. Je ne sais pas exactement ce sur quoi ça peut déboucher. On sait que le Rio Tor arrive dans le parc Jean-Marc. Hein, c'est ce qui alimente en eau le parc Jean-Marc. À voir comment ça va pouvoir être intégré. Mais là, il y a quand même un projet intéressant. D'autres questions sur cette convention EPORA ? Des votes contre ou des abstentions ? Donc, je considère qu'à l'unanimité, la convention EPORA est validée. Je pourrais maintenant la signer. Merci. Nous passons maintenant à une question qu'on avait déjà d'ailleurs pour un autre immeuble validé au cours du conseil municipal du mois de décembre. Il s'agit des garanties d'emprunt. Donc, vu le contrat de prêt 116 937 en annexe signé entre la SCI Le Toit Forésien et la Caisse des dépôts et consignations, je vous demande de bien vouloir décider. Donc, l'article 1. L'Assemblée délibérante de la commune de Saint-Priest-en-Jarret, donc le conseil municipal, accorde sa garantie à hauteur de 65% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 150 000 euros souscrit par l'emprunteur auprès de la Caisse des dépôts et consignations selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt constitué d'une ligne de prêt. Le dit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. La garantie est apportée aux conditions suivantes. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci, et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur, dont il ne se serait pas acquitté, à la date d'exigibilité. Sur notification d'impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la collectivité s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaire à ce règlement. Enfin, article 3, le Conseil s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. Alors, c'est une procédure qui est habituelle. Donc, on en a passé une au mois de décembre. Vous avez tout l'ensemble du prêt. Donc, la commune se porte garant à hauteur de 65%. Et pour les 35% qui restent, c'est le Conseil départemental. C'est une procédure tout à fait normale. Alors, je vais continuer sur le deuxième document. Alors, voilà, j'y suis. En fait, on procède de cette façon depuis 1992. Frédéric m'a ressorti l'ensemble des garanties d'emprunt qu'on avait apportées aux bailleurs sociaux. Donc, on a apporté nos garanties en 92, en 93, en 94, en 96, en 98, 99. 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 12, 13, 19, 20 et maintenant 21. Donc vous voyez que c'est une procédure tout à fait légale pour les bailleurs sociaux. On n'a jamais eu, bien sûr, de défaut de remboursement d'emprunt de la part du bailleur social pour une bonne et simple raison, c'est qu'il est propriétaire des bâtiments. Et s'il ne pouvait plus payer, il sera obligé de vendre ses bâtiments. Donc voilà, donc c'est simplement une formalité administrative que je vous demande de bien vouloir valider. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, c'était pour l'immeuble, la rénovation qu'ils ont réalisée sur l'immeuble de la rue des Bières, en haut de la rue des Bières. Travaux qui ont été assez importants, puis je crois qu'ils ont investi en moyenne 34 000 euros par appartement. Des questions ? Y a-t-il des oppositions ou des votes contre ? Donc, à l'unanimité, on valide le principe de la garantie de cet emprunt souscrit par le Toit Forésien. Et je vous en remercie. Le point suivant, c'est je dirais que vous l'aurez chaque année, cette délibération en début d'année, c'est l'action sociale en faveur du personnel communal pour l'année 2021. Si vous voulez, il y a donc un certain nombre de dispositions destinées à l'action sociale en faveur de nos personnels et qui est réactualisée sur des bases légales chaque année. Donc la circulaire en date du 24 décembre 2020 du ministère de la Transformation et de la Fonction publique et du ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance dispose des prestations d'action sociale susceptibles d'être accordées au personnel communal au titre de l'année 2021. En fait, ces prestations supportent une revalorisation de 1,23%. Donc pour les enfants handicapés, l'allocation mensuelle est de 167,06 €. Elle était avant de 165,02 €. Pour les séjours en centre de vacances, 21,88 € au lieu de 21,61 €. Les subventions pour les séjours d'enfants, pour les moins de 13 ans, 7,67 € au lieu de 7,58 € et de 13 à 18, 11,60 € au lieu de 11,46 €. Donc ça, c'était pour en colonie de vacances. En centre de loisirs sans hébergement, la journée, c'est 5,53 € au lieu de 5,46 € et la demi-journée, 2,79 € au lieu de 2,76 €. En maison familiale et gîte, en pension complète, c'est 8,07 € au lieu de 7,97 € et les autres formules, 7,67 au lieu de 7,58. Les séjours mis en œuvre dans le cadre éducatif, un forfait de 21 jours ou plus, c'est 79,46 € au lieu de 78,49 €. Et pour les séjours d'une durée inférieure par jour, 3,78 € au lieu de 3,73 €. Enfin, pour les séjours linguistiques, pour les enfants de moins de 13 ans, c'est 7,67 € au lieu de 7,58 €. Et de 13 à 18 ans, 11,61 € au lieu de 11,47 €. Donc voilà, c'est une décision qu'on vous présente chaque année puisque les barèmes sont actualisés. Des questions par rapport à ça ? Donc ce sont des aides financières qu'on peut accorder aux familles en fonction de la nature des actions. Vote contre ? Abstention ? Donc à l'unanimité, nous validons ces tarifs pour 2021. Ensuite, je vais vous proposer donc deux conventions qui nous lient avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire. Je vous rappelle que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire est tenu d'accomplir des prestations obligatoires pour le compte de toutes les collectivités et établissements publics qui lui sont affiliés, ce qui est notre cas. Cet établissement reçoit chaque année notre contribution pour accomplir ses missions. De plus, à la demande expresse des collectivités affiliées, des services optionnels peuvent être proposés. C'est le cas en ce qui concerne la création du service dédié à la médecine professionnelle et préventive, ce qu'on appelle dans le privé la médecine du travail. Pour chacun des services optionnels, l'équilibre financier doit être assuré et cela peut s'effectuer de plusieurs manières. À ce jour, le conseil d'administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire a préféré appliquer des participations financières forfaitaires en fonction des prestations offertes plutôt qu'un taux additionnel. Que l'article 26.1 de la loi référencée, modifié par la loi donc du 19 février 2007, autorise le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire à créer des services de médecine préventive ou des services de prévention des risques professionnels qui sont mis à la disposition des collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande. En conséquence, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire a communiqué à la commune un projet de convention dédié à la médecine professionnelle et préventive au bénéfice de nos agents. S'agissant d'une mission particulière, le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire propose que cette délégation s'effectue par une convention jusqu'au 31 décembre 2023. Notre collectivité pourra la dénoncer avec un préavis de 6 mois. Une tarification sera fixée au 1er janvier de chaque année par le conseil d'administration du centre de gestion. Un conseil d'administration, il est composé de façon paritaire, moitié des élus des collectivités qui sont affiliées et l'autre moitié des représentations des organisations syndicales. Que la solution proposée présente le double avantage de pérenniser ce service optionnel et de ne cotiser qu'en fonction de nos besoins, en connaissant au préalable les conditions financières de l'année à venir. Que de plus, l'évolution de la réglementation en matière de médecine professionnelle et préventive est de plus en plus complexe à maîtriser. Donc je vous demande de bien vouloir, vu la loi 84-53 du 26 janvier 84 portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, vu la délibération du 6 novembre 2020 du conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Loire, nous on a l'habitude de dire CDG, c'est plus simple, habilitant le président à agir pour signer la dite convention, donc accepter la proposition suivante, qui est de charger le service optionnel Pôle Santé au Travail, créé par le CDG, de prendre en charge le soin de mettre en œuvre la surveillance médicale préventive au profit des agents de notre collectivité, à compter du premier jour du mois qui suit la décision de l'Assemblée, et au plus tôt le 1er janvier 2021, et ce jusqu'au 31 décembre 2023. Cette adhésion peut être dénoncée par l'une ou l'autre partie contractante de son plein gré, par lettre recommandée avec un préavis de 6 mois. Le coût d'adhésion a été établi par délibération du conseil d'administration du CDG pour l'exercice 2021 sur la base de 94 € par agent, dont 7 € de participation aux frais de gestion. Cette cotisation pourra être revalorisée annuellement sur décision expresse du conseil d'administration du CDG et donc que l'Assemblée délibérante m'autorise à signer la convention qui en résulte. Vous avez des questions sur cette médecine préventive et de santé au travail ? Si. En fait, c'est une reconduction. Nous, on avait déjà... Alors, le centre de gestion gère en fait tout un ensemble de prestations en termes de ressources humaines. que ce soit dans les formations, la médecine du travail, les recrutements. Et bien sûr, après, la collectivité a le choix de, sur ce genre de prestations, soit d'avoir son propre médecin, je dirais, soit de passer par le centre de gestion. L'avantage, c'est qu'effectivement, ça devient de plus en plus complexe, en particulier quand il y a des arrêts de longue maladie, des accidents du travail. Donc là, effectivement, c'est quand même beaucoup plus confortable de passer par cette structure qui ne fait que ça. Non, mais effectivement, on a toujours été... alors, on est affilié au centre de gestion, puisque c'est une obligation, mais y compris pour ces prestations optionnelles. Des questions ? Des votes contre, des abstentions. Donc, à l'unanimité, je vais pouvoir signer cette convention en votre nom et je vous en remercie. Enfin, il y a une deuxième convention, toujours avec le centre de gestion. Alors, c'est la convention d'adhésion aux prestations hygiène et sécurité du centre de gestion de la fonction publique territoriale. Je vais dire CDG, maintenant, ce sera beaucoup plus simple. Monsieur le maire informe les membres du conseil municipal que les collectivités adhérentes aux prestations hygiène et sécurité du CDG 42 bénéficient d'un service information et conseil en prévention, donnant accès à l'ensemble des informations et de la documentation spécialisée diffusée sur le site internet du CDG et à des réponses individualisées à des questions réglementaires ou techniques particulières émises par la collectivité pour un coût mensuel de 10 euros. En complément de cette prestation, l'adhésion permet de bénéficier à la demande et sous la responsabilité de la collectivité de missions d'inspection hygiène et sécurité obligatoires dont la périodicité est fixée au vu de l'effectif de la collectivité et de missions d'assistance individualisée en prévention et d'assistance mutualisée en prévention planifiées à leur demande. Les tarifs de ces prestations sont définis par délibération du CDG. L'ensemble de ces missions sont réalisées sur site par un agent chargé de la fonction d'inspection, ce qu'on appelle un ACFI, ou un chargé de prévention du CDG 42. Précisez que, en ce qui nous concerne notre personnel, nous avons un agent qui est ACFI. Non, il n'est pas ACFI, Jacques ? ACMO. Non, excusez-moi, ACFI, ACMO, d'accord. Mais c'est lui qui fait le lien avec les ACFI du CDG. Il est proposé aux membres du conseil municipal de solliciter le CDG 42 pour les prestations hygiène et sécurité et d'autoriser à cette fin le maire à conclure la convention correspondante dont le texte est soumis au conseiller et qui s'appliquera le premier jour du mois suivant sa signature. Et donc, je vous demande de bien vouloir décider d'adhérer à la convention hygiène et sécurité du CDG 42 pour un montant mensuel de 10 euros, de solliciter en fonction des besoins en hygiène et sécurité les prestations en inspection ou en assistance, proposé en lien avec la tarification à l'acte prévue dans l'annexe financière de la convention, de m'autoriser à conclure la convention correspondante avec le CDG 42 de la Loire annexée à la présente convention et de prévoir les crédits correspondants au budget de la collectivité. Donc là, ça n'est plus pour la médecine du travail, c'est plus pour des missions effectivement d'appréciation sur les conditions de travail. On avait longuement évoqué lors de la dernière mandature dans le cadre du CHSCT, ces actions, on étudiait la façon de travailler, les fiches de poste, etc. Donc ça, c'est tout l'aspect un petit peu prévention. Et puis, on peut aussi leur confier des missions d'appréciation sur l'aménagement du poste de travail ou les conditions de travail. Des questions par rapport à ça ? Des votes contre ? Des abstentions ? Eh bien, je vous remercie pour cette dernière délibération de pouvoir m'autoriser à signer cette convention. Donc, nous en avons fini avec les questions prévues à l'ordre du jour. Je vais demander à Antoine Di Paolo de nous présenter le bilan de la délinquance sur la commune en 2020. Merci.
Oui, donc Antoine Di Paolo, délégué sécurité, tranquillité publique et circulation. Vous avez devant vous, sur votre table, l'évolution de la délinquance sur notre commune. Le tableau récapitulatif de l'année 2020 avec le rappel des faits ayant concerné 2019. La projection qui va suivre mettra en comparaison les différents actes délictueux commis en 2017, 2018, 2019 et 2020. En 2020, la délinquance est en baisse dans tous les secteurs, hormis quelques exceptions. Bon, nous passons à la première diapositive. Ce sont les vols liés aux véhicules à moteur. Cette rubrique comprend les vols d'automobiles, les vols à la roulotte, les vols d'accessoires sur véhicules à moteur, les vols de véhicules motorisés à deux roues, ainsi que les vols de véhicules de transport avec leur cargaison. Il y en a eu donc 62 en 2020, ça fait 4 de plus qu'en 2019. Et sur les 3 dernières années, cela représente une moyenne de 56 vols par an. Ensuite, nous passons au vol d'automobiles. De 2017 à 2020, il y a eu en moyenne 20 vols d'automobiles par an. Une hausse en 2019 avec 28 vols, un retour à la baisse en 2020 avec 20 vols, donc 8 de moins. Les vols à la roulotte, ils sont pratiquement stables depuis 2018. 22 vols en 2018, une légère progression en 2020 avec 25 vols, soit 3 de plus qu'en 2019. Les vols par effraction sont les faits de délinquance qui monopolisent le plus notre attention. Ils concernent les habitations principales, les résidences secondaires, les locaux commerciaux et industriels, ainsi que les caves, les garages et les cabanes de jardin. Il y en a eu 53 en 2019, 53 en 2018, 52 en 2019 et 42 en 2020. C'est 10 de moins qu'en 2019, mais nous devons peut-être cette baisse aux mesures de confinement et de couvre-feu en 2020. La moyenne sur les 4 dernières années est de 48 vols par effraction par an. Cette rubrique concerne non seulement les vols par effraction qui ont été commis, mais aussi les tentatives de vol. Les cambriolages des habitations principales. Ceux-ci déclinent régulièrement depuis 2017, passant de 34 en 2017 à 18 en 2020. Cette tendance est générale selon la sécurité publique pour toutes les petites communes de notre région. Petit rappel de vigilance, les vols par effraction sont de courte durée et commis à n'importe quelle heure de la journée, souvent à l'aide d'un tournevis par peser sur les portes-fenêtres. Donc, même pour une absence brève, pensez à bien verrouiller votre domicile. Ensuite, la courbe des vols par effraction depuis 2001. Durant les 20 dernières années, 1033 cambriolages ont affecté notre commune. 76 en 2001, c'est le pic. Mis à part l'exception de 2016 avec 66 cambriolages, nous voyons que la courbe diminue régulièrement chaque année. Autres vols sans violence contre des particuliers. Ils comprennent les vols à la tire, les vols simples. Le voleur ne rencontre aucune difficulté sur son chemin, par exemple une porte ou une fenêtre laissée ouverte. Il s'approprie le bien sans commettre d'effraction et sans violence. Cela diminue depuis 2018, nous avions eu 71 faits, 64 en 2019 et 49 en 2020. Autre vol sans violence contre des entreprises ou des établissements. Ça concerne les vols à l'étalage, les vols sur les chantiers et les vols dans les établissements publics ou privés. Nous en avons eu 34 en 2018. Une hausse en 2019 avec 42 faits et une nette régression en 2020 avec 22 faits, donc 20 de moins qu'en 2019. Les vols à main armée avec armes à feu, c'est exceptionnel, heureusement, sur notre commune. Un seul acte commis en 2018, il s'est produit au guichet des carburants du centre commercial Leclerc à la Bargette, mais il s'agissait peut-être d'une arme factice. Les vols avec violence sans armes à feu. Ceux-ci avaient progressé en 2018 avec 11 faits. Depuis, nous enregistrons une baisse avec 8 faits en 2019 et 7 en 2020. Destruction et dégradation. Ils comprennent les incendies volontaires de biens publics ou privés et les destructions ou dégradations de véhicules privés. Nous enregistrons une quarantaine de méfaits de ce type chaque année depuis 2018. Coups et blessures volontaires, ce sont des violences physiques dont l'argent n'est pas le mobile. Il s'agit par exemple de règlements de compte, mais aussi de mauvais traitements à enfants. Malheureusement, ces méfaits connaissent une progression depuis 2018 avec 22 faits, 2019, 26 et 2020, 30. J'en termine avec quelques informations sur les incivilités routières. En ce qui concerne les infractions au code de la route, nos policiers municipaux ont dressé 660 verbalisations en 2020. Je vous donne quelques chiffres. Stationnement sur trottoir, 247. Absence de disque bleu, 159. Stationnement interdit par arrêté, 123. Manque de certificat d'assurance, 14. Excès de vitesse à plus de 50 km/h, 17. Sens interdit, 3. Téléphone au volant, 4. À ces verbalisations, bien sûr, s'ajoutent celles de la police nationale. J'ai fini. Je vous remercie de votre attention.
Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces chiffres? Donc, on voit qu'effectivement, il y a une légère diminution, une stabilisation des faits. C'est vrai que dans certains, par rapport à certains paramètres, on peut penser que l'effet confinement a joué, alors pour les cambriolages, mais également pour les violences, à l'inverse, parce que les violences, c'est les violences aux enfants, les violences aux femmes. Et puis, il y a aussi peut-être le fait que bah, les personnes qui sont violentées dans le cadre de leur habitat hésitent un peu moins à déclarer et à porter plainte. Il y a aussi ce phénomène de médiatisation qui aujourd'hui est un petit peu plus évident. D'autres questions? Dans les questions diverses, je voulais donc évoquer avec vous trois points. Le premier, c'est l'acquisition donc de véhicules utilitaires de marque Renault. Je pense que d'ici le mois de mars, on devrait les avoir à moteur électrique. Ça, j'en avais déjà parlé. Et financé intégralement par la publicité. Donc, on aura simplement, nous, commune, un petit espace qu'on va acheter. Puisqu'il restait un petit espace et on ne voulait pas bloquer l'acquisition d'un véhicule pour un petit espace. Donc ce sont des contrats de location de 2 ans. Donc Frédéric s'est renseigné auprès de Saint-Étienne Métropole. Et effectivement, il est bien prévu l'installation sur la place du Centenaire, la place juste à côté de la mairie, d'une borne de recharge électrique. Et puis en plus, les véhicules sont fournis avec 2 câbles. Un pour se brancher sur ce type de borne et un autre pour se brancher sur une prise traditionnelle. Donc on aura à la fois nos véhicules, c'est une bonne chose. On verra comment on médiatise quand même cet événement, puisqu'on a, on a remplacé un véhicule par 2 véhicules. Donc c'est quand même intéressant. Ça évite d'en acheter un. Et puis, bon, bah, c'est électrique, donc c'est quand même une démarche qu'on avait voulu d'ailleurs en 2019 initier. On n'avait pas pu aboutir. Donc voilà, ça c'est fait. Le second point, vous en avez entendu parler, puisque ça a été évoqué dans la presse tout récemment, c'est la confirmation de la fermeture d'une classe dans le groupe scolaire Georges Sand. Michel, tu veux dire un mot peut-être?
Effectivement, on a eu la visite de l'inspecteur d'académie la semaine dernière et qui nous a confirmé nos craintes qu'on avait depuis déjà la fin de la précédente année scolaire. La directrice m'avait déjà alerté sur la baisse des effectifs et ça s'est confirmé sur la prochaine rentrée puisque en juin 2020, on a 28 CM2 qui vont quitter la commune. Et en effectif prévu en rentrée petite section, il n'y a que 17 enfants. Donc déjà, on a un delta de 9, sans compter que les 17, c'est les 17 enfants qu'on a comptabilisés comme étant nés il y a 3 ans sur la commune de Saint-Prié. Mais on n'a aucune certitude que ces 17 enfants, ils viennent tous à l'école Georges Sand. Il y a des gens qui ont pu partir, il y a des gens qui n'ont peut-être pas le choix de les scolariser sur place. Voilà. Donc, on a des difficultés à se battre parce que le taux d'encadrement actuel est de 22 élèves, c'est-à-dire qu'ils prennent le nombre d'enfants divisé par le nombre d'enseignants et ça fait une moyenne de 22 élèves par classe. Et si on ferme une classe, on arrive à l'effectif de 25, ce qui n'est pas non plus scandaleux, 25 élèves par classe, voilà. Donc, ça a déjà été annoncé dans la presse. Je ne pensais pas que ça serait si tôt, parce que d'habitude, ça n'est jamais bien avant mars. Mais là, ils ont l'air de bousculer un peu le calendrier. Et voilà. Alors, sauf effectivement un apport exceptionnel de 25 enfants d'ici le mois de juin. Mais on y croit guère et effectivement, on s'achemine. Donc, Saint-Georges-de-Sande, pour l'instant, a 8 classes. 3 classes en maternelle et 5 classes en élémentaire. Donc, il y en a une qui va fermer. Mais on ne sait pas si... Enfin, l'éducation nationale ne nous dit pas de fermer une classe de maternelle ou une classe élémentaire. Après, comme c'est une école primaire, c'est-à-dire que l'ensemble des effectifs est compté, ça sera aux enseignants de savoir comment ils vont répartir leurs effectifs. Il n'y aura peut-être que 2 classes de maternelle et toujours 5 en élémentaire ou pas. Enfin, voilà. Donc ça, on le saura à partir du mois de juin quand les enseignants auront un petit peu plus de visibilité sur les effectifs de leur classe. Voilà. Bien entendu, la directrice de Georges Sand avait elle aussi été avertie par Madame Tolo auparavant, avant que ça paraisse dans la presse.
Donc le dernier point que je voulais vous soumettre, on avait débattu dans le cadre de l'Assemblée plénière de Saint-Étienne Métropole jeudi. Donc jeudi, elle a commencé à 14h30 et elle a fini à 21h30. Heureusement que c'était en visio. Il y avait le débat sur la gestion de l'eau. Gestion de l'eau et gestion de l'assainissement. Alors je ne vais pas refaire l'historique de ce dossier qui est essentiel. Je vous rappelle simplement les grandes lignes. Il y avait d'une part la décision de la gestion des eaux brutes, donc en amont de tout traitement. En ce qui nous concerne, ça arrive à Solor. Il y avait une deuxième décision à prendre sur la gestion de l'eau potable sur le territoire furant, dont Saint-Étienne et les communes avoisinantes auxquelles on appartient. Et puis la gestion de l'assainissement, parce que Saint-Étienne Métropole diviser le territoire en plusieurs zones avec comme perspective une gestion unifiée de l'eau, une tarification unifiée à l'horizon 2030. Je vous avais dit qu'on avait reçu un rapport qui faisait 429 pages. Qu'en bureau, il y avait eu quelques réactions et donc, on en avait parlé la semaine dernière, on avait décidé de donner un avis négatif sur la forme. Donc, j'ai communiqué les attendus suivants. Les conseillers municipaux de Saint-Priest-en-Jarret, réunis le 25 janvier 2021, ont examiné le projet de délibération sur la gestion de l'eau potable pour les territoires furants auxquels la commune est rattachée. Considérant que les délais pour apprécier et débattre de ce dossier ont été particulièrement écourtés, considérant qu'il existe une incertitude que le mode de gestion, en l'occurrence la délégation de services publics, proposé pour le territoire furant ne soit pas identique pour les futurs territoires pour lesquels s'exercera une convergence à l'horizon 2030. Considérant qu'à ce jour, il n'existe aucune garantie quant à une convergence tarifaire vers un tarif le plus bas, actuellement c'est Saint-Étienne avec 1,39€ du mètre cube, et qu'il pourrait y avoir, de la part du futur délégataire, la volonté de répercuter les coûts sur le tarif facturé. Considérant qu'il n'est pas retenu le principe d'une tarification progressive de l'eau potable, à savoir un tarif dit social pour les premiers mètres cubes, vitaux pour les consommateurs, et progressif pour la consommation dite de confort, constatant qu'un tel dossier essentiel pour nos communes et territoires, et comme pour le pacte de gouvernance, aurait nécessité un avis motivé de chaque conseil municipal, les élus municipaux de Saint-Priest-en-Jarret ont demandé à leurs 2 conseillers métropolitains de se prononcer contre cette délibération et de procéder à un vote négatif. Donc, je précise bien que c'est sur la forme et les conditions d'étude et d'examen de cette situation. Après, de nombreux maires, y compris sur ceux de Fontanay et de la Gimont, qui ont le tarif le plus élevé à 4,03€, sont particulièrement favorables dans la mesure où ils disent s'il y a une convergence à 1,39€, on est preneur, indépendamment, je dirais, de l'aspect philosophique de la gestion de l'eau. Donc nous, on s'est prononcé simplement sur la forme. Alors je vais peut-être laisser, parce que moi j'étais sur 2 réunions, j'étais sur l'Assemblée plénière et sur le SCOT, je vais peut-être laisser Michel décrire un petit peu les conditions de cette Assemblée plénière.
Ben, en fait, sur le problème de la gestion de l'eau, il y a eu exactement 2h30 de débat. En fait, systématiquement maintenant, quand il y a des délibérations qui concernent l'eau, qui concernent les transports, qui concernent les plans alimentaires, les déchets, enfin tout ce qui peut être écologiquement sensible, on va dire, on a systématiquement une intervention de tous les élus écologistes, essentiellement de Saint-Étienne, qui sont au nombre de 4. Et qui nous livre un discours qui a été préparé à l'avance, très certainement pas par eux, parce que dans la façon dont ils le lisent, et Claude me le confirmera aussi, On voit qu'ils... Ou alors ils ne l'ont pas lu depuis longtemps, ou alors ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Et ça devient insupportable, quoi. Ça devient des réunions où... je pense que même en voulant être gentil, en voulant être consciencieux, au bout de 3 minutes, vous avez décroché, quoi. Et le discours, il dure 20 minutes. Et il y en a 4 fois, 5 fois, 20 minutes sur toutes les délibérations. Ce qui fait qu'effectivement, on a commencé la réunion à 14h30 et on a fini à 21h30. Donc, autant vous dire qu'au bout de 5 heures, déjà 5 heures de réunion, c'est déjà beaucoup, mais les 2 dernières heures... Je pense qu'ils pourraient faire passer ce qu'ils voudraient, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de rentrer chez soi, d'aller se reposer, parce qu'assis sur une chaise pendant 7 heures, ça devient un peu pénible. Et puis surtout, ce n'est pas constructif. Enfin, au-delà de... Enfin, on a un peu cet avis-là, nous tous les trois, c'est que c'est de l'opposition systématique et idéologique, surtout. C'est-à-dire qu'ils apportent leur discours écologique sur le sujet de l'eau, sur le sujet du transport, mais qui n'est pas forcément adapté. Ça peut être... une je sais pas, je dis n'importe quoi, mais une extension de réseau d'eau à Fontanay, ça y est, il y a le mot eau dedans, donc c'est parti sur la gestion de l'eau qui est mal faite à Métropole, qui est pas anticipée, qui... Alors ils ont peut-être raison dans le fond ou dans la forme, mais franchement, moi au bout d'un moment, je sais même pas ce qu'ils disent, donc je peux pas vous dire s'ils ont raison ou pas, mais on arrive à des situations de réunion qui deviennent un petit peu insupportable et invivable. Alors, je ne sais pas si ça s'arrangera. Je pense que Perdriau subit ça en plus à Saint-Étienne déjà. Donc, il y a des moments, je ne vous explique pas. On sent que c'est tendu quand même, les rapports. Hein. Donc, pardon. Oui, non, mais sur le projet de la gestion de l'eau de la DSP, c'est vrai qu'il y a des points qui auraient nécessité qu'effectivement, on en discute avant, qu'il y ait vraiment... à la limite une synthèse de ce dossier, parce que 436 pages, c'est pareil, on le reçoit 5 jours avant, je suis désolée, on a tous d'autres occupations et surtout d'autres envies que de lire un rapport qui est hyper technique en plus. On nous ferait une synthèse d'une dizaine de pages, on en aurait discuté tous ensemble. Il y a des choses qui sont certainement très, très, très bonnes à prendre, d'autres qui sont un peu plus discutables parce que on parlait par exemple de la convergence du tarif de l'eau. Ils nous disent quand même, après, quand on fait le débat d'orientation budgétaire sur un autre sujet, qu'en fait, ce taux de convergence, il va augmenter. C'est-à-dire que nous, pour l'instant, le taux de convergence, il n'y avait pas trop d'influence sur le tarif de Saint-Prié. Mais comme on va l'augmenter, du coup, nous, ça risque d'augmenter aussi. Mais c'est tellement noyé dans la masse, tellement noyé dans une somme d'informations, qu'effectivement, on ne va plus à l'essentiel et on a du mal à prendre les bonnes décisions. Donc, notre vote contre... On l'a bien précisé que c'était dans la forme. Je ne suis pas sûr, malheureusement, que ça fasse bien bouger les lignes. Mais bon, on verra.
Oui, parce que le vote a eu lieu. Donc, en définitive, il y a eu tout un groupe de communes qui ont voté contre. Alors, on est bien d'accord, ça concerne uniquement les territoires furants. Et ce sont toutes les communes métropolitaines qui votent. C'est la logique de la métropole, en fait. On aurait pu dire aussi ne vote que les communes concernées. Donc, ce n'est pas le cas. Si on rentre dans cette logique, ça veut dire qu'on n'est plus métropolitain. Si on commence à revenir à des sous-secteurs, on casse cette dynamique. Sachant que nous, on aura à se prononcer sur la gestion de l'eau à Châteauneuf, à Saint-Galmier ou à Firminy. Donc, il y a un groupe de communes qui a voté contre parce que, par principe, ils sont en registre, alors qu'on vient très bien, c'est Saint-Jean-Bonnefonds, Sorbier et Latalo. Donc, nous, on a associé nos votes contre. D'autres communes aussi ont voté contre. Il y a eu pas mal d'abstentions également, mais la grande majorité a voté pour. Alors, sur la DSP... Saint-Étienne est déjà en délégation de service public, donc pour eux, c'est une continuité. D'ailleurs, c'est marrant, mais bon, il y a la tour qui est associée à Saint-Étienne. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est d'un point de vue géographique, c'est exactement le même mode de gestion et le même prestataire. Donc après, maintenant, ça va être de bâtir un cahier des charges pour accorder la délégation de service public. Qu'est-ce qu'on y met? Et le vice-président en charge de l'eau, M. Bonnet, se veut rassurant, dit « mais on procédera par étapes, on vous tiendra informé, on en rediscutera ». Il n'empêche que sur des sujets comme ça, il y aura au bout du compte 2, 3, peut-être 4 prestataires potentiels, pas plus, sur des enjeux comme ça. Et qu'en plus, il faut qu'ils aillent très vite puisque Saint-Étienne, son contrat de DSP s'achève en septembre 2022. Donc il faut qu'absolument le nouveau protocole soit en place pour cette date-là. C'est pour ça qu'en fait que ça va si vite. Ce qu'on regrette simplement, c'est qu'on nous fait prendre une décision sur le pacte de gouvernance. C'est intéressant, mais c'est qu'une organisation matérielle. On avait rencontré M. Bonnet, qui était venu nous voir pour nous parler de l'eau en général et de ses problématiques. Moi, je disais simplement, ça aurait été intéressant que pour les communes concernées, Ils s'organisent pour que M. Bonnet rencontre un conseil municipal, le conseil municipal de chaque commune, pour expliquer les enjeux. Donc, en conclusion, la gestion des eaux brutes non traitées, c'est en régie. La gestion de l'eau potable pour les territoires furants, ça sera en DSP. Et la gestion de l'assainissement, ça sera en régie. Donc voilà, on tenait à vous tenir informé de l'évolution de cette situation. Est-ce que vous avez d'autres questions diverses? Bon, vous voyez, on a bien tenu le timing. Bon, il faut dire que l'ordre du jour n'est pas trop chargé. Je vous rappelle les prochaines réunions. Donc, nous avons deux réunions plénières prévues les 22 février et 15 mars. Donc, c'est les réunions du lundi préparatoires ou pour débattre d'un certain nombre de sujets. Et puis, on fait un petit peu le bilan de tout ce qui se passe sur l'activité municipale. Et puis, le prochain conseil, lui, est prévu le lundi 22 mars à 19h. Avec donc le compte administratif et le budget primitif. Là, vous allez vous régaler. Michel va vous donner des chiffres de partout. Ça va être très intéressant. Alors, ce qu'on essaiera simplement, il y a des documents officiels. Ils sont intéressants, mais il faut vraiment arriver à se les approprier. On essaiera quand même de vous faire une petite présentation synthétique sur les grandes masses. Parce que le détail du compte 61, du sous-compte 61, 120, etc., c'est intéressant, mais bon, ce n'est pas forcément l'enjeu du débat.
Va être en durée la réunion de Saint-Étienne Métropole, mais je ne sais pas si on va y arriver.
Bien, ben merci à vous. Rentrez bien, pensez à vos attestations si vous êtes arrêté. Sachant que des recommandations ont été données, on a rencontré quand on a rencontré la police nationale. La police nationale a des consignes très strictes de contrôle après 18 heures. Et on a également donné ces consignes à nos policiers municipaux. Il y a eu une présence très forte de la police et nationale et municipale vendredi sur la place parce qu'on avait un petit supermarché des stupéfiants qui s'était installé. Et bon, ils sont passés, peut-être... Ouais, il y a le marché, voilà, il y a le marché. Donc, toutes les demi-heures, il y avait ou la police municipale ou la police nationale. Voilà, c'était un petit peu épique. Merci à vous, et prenez soin de vous, et à bientôt. On va parler après. Bien, simplement, maintenant que le conseil est fini... Frédéric, c'est fini l'enregistrement? C'est bon? Comment? Non, fini complet. Simplement par rapport à...